أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حبيبي وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique. Nous avons commencé déjà à parler de la falsification du Saint-Coran et nous avons posé la question essentielle qui est que est-il possible que le Coran soit falsifié? Si réellement pas possible, quelles sont les preuves? Et si aussi pas possible, quelles sont aussi les preuves? Et nous avons essayé aussi de vous éclaircir sur les points à ce qui concerne la définition, qu'est-ce que veut dire réellement la falsification du Saint-Coran. Nous avons dit que dans la falsification, il existe deux sortes de falsifications. La première falsification se porte sur le côté littéraire, c'est-à-dire le côté verbal, et aussi l'autre qui est le côté, si je peux m'exprimer ainsi, le côté contextuel. Et nous avons dit que le côté verbal, il est pratiquement impossible qu'il y ait une falsification. Mais le côté littéraire, le côté contextuel, dans le sens réel du Saint-Coran, il peut avoir effectivement des manipulations et nous avons parlé de cela. Les preuves que nous avons essayé d'amener pour dire que le Coran ne peut pas être falsifié ni de la part des êtres humains, ni de la part d'une intelligence quelconque, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, lui-même, il nous a donné cette garantie de protéger le Coran de toute falsification. Et nous avons essayé, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Nous avons fait descendre le dhikr, c'est-à-dire le rappel, et nous sommes réellement le protecteur de ce rappel, et nous avons essayé de rappeler que le rappel ici, de notifier que le rappel ici veut dire le Saint-Coran. Et le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a garanti cela. Et aussi lorsque vous essayez de voir les démarches mises en place par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aussi pour ne pas que le Coran soit aussi, je peux m'exprimer ainsi, falsifié, et même dans sur le côté verbal, là, je vais parler du côté littéraire, le prophète, au moment de la révélation du Saint-Coran, il avait certaines personnes à côté de lui qu'on appelait couramment des scribes. Les scribes avaient les rôles seulement de réunir ou d'écrire les révélations qui se présentaient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, c'est important que nous puissions savoir réellement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas arrêté là. Il a aussi formé des groupes de disciples qui étaient des Hufad, qu'on appelle les mémorisateurs du Saint-Coran, qui mémorisaient le Saint-Coran. Ceux-là même étaient là. Donc, en réalité, le prophète avait mis tout en place, en fait, que ne pas que le Coran soit falsifié dans la société des musulmans, après aussi, bien sûr, la garantie divine. Donc, dans ce cadre-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait tous ses efforts pour que le Coran soit effectivement protégé. Lorsque nous avons essayé de dire cela, nous avons donné comme preuve encore de plus, il a dit que inni tarikum fiikum siqlain kitab Allah wa itrati ahl bayti. Lui, le prophète lui-même, il a essayé de nous donner cette garantie-là dans ce verset coranique, disant que je vous laisse deux choses lourdes, le livre de Dieu et aussi effectivement ma sainte famille. Il dit hablun biyadillah wa hablun biyadikum, c'est-à-dire que l'un des bouts de ce corde là, de cette corde là se trouve dans la main de Dieu et l'autre dans la main, dans vos mains. Et effectivement, il est important que nous puissions essayer de vous éclaircir sur ce point, c'est-à-dire lorsqu'on parle de le livre de Dieu et ma famille ici là, c'est comme si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il essayait de nous donner une garantie dans cette vie Et cette garantie se trouvait dans le Saint-Coran ou aussi dans la famille sainte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons essayé de notifier tout cela pour dire que, et effectivement, ce qui est de génération en génération, ils ont essayé, et oralement même, ou par écrit, de transmettre le texte ou le Coran de génération en génération. Et c'est ce qui a fait que le Coran se trouve entre nos mains. Et le Coran a été écrit, même après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par certains disciples. Parmi ces disciples, les fidèles compagnons et l'imam Ali alayhi salam, l'émir des croyants, lui aussi, après le décès du prophète Mohammed, il avait pris l'engagement aussi d'écrire le Coran totalement, intégralement. Il a fait après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute cette démarche-là rentre dans le cadre effectivement de, je sais pas m'exprimer ainsi, de la protection du Coran de toute falsification. Lorsque vous essayez aussi de voir dans le cadre de savants musulmans, et vous allez trouver que les savants musulmans, ils ont essayé de déployer beaucoup d'efforts pour que le Coran ne soit pas aussi dit falsifié. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a au sein de la communauté musulmane, il y a certaines personnes qui disent que les chiites ont un autre Coran, ils ont un Coran, ils disent que le Coran a été falsifié. Nous avons des hadiths que nous avons essayé d'énumérer, et de l'autre côté et de ce côté. Et donc, en réalité, les sunnites, ils ont des hadiths qui disent que le Coran a été falsifié. Nous avons aussi des hadiths, réellement, lorsqu'on regarde avec le cœur ouvert, retrouvant effectivement que le hadith veut dire la falsification du Saint-Coran. Mais, avec les hadiths, les chaînes de transmission de ces hadiths, lorsque vous regardez cela, et aussi effectivement le sens réel de ces hadiths ne va pas en harmonie avec l'enseignement coranique. Donc le Coran reste effectivement pour nous, la science des hadiths, pour nous comme étant une balance efficace pour pouvoir peser réellement le fait de la fiabilité réellement de ces hadiths qui se sont présentés de la part de l'un et de l'autre, que l'autre essaie d'accuser. Et l'autre est effectivement l'un, essaie d'accuser l'autre. Et aujourd'hui, je vous demande, mes chers frères et sœurs, de rester aussi tranquillement et de regarder dans ce sens que le Coran n'a pas été falsifié. C'est ce Coran qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, et c'est ce Coran qui se trouve entre nos mains. Toutes ces accusations non fondées, il ne faudrait pas se fier à ces accusations. Il faut vivre avec la réalité. La réalité est que les savants, la majeure partie des savants musulmans, tous les savants aujourd'hui sont unanimes que le Coran n'a pas été falsifié. C'est très important parce que lorsqu'on parle de la falsification du Saint-Coran, et nous avons dit que ça rentre dans ce cadre-là, comme si ça mettait en cause la réalité, la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pas seulement cela, aussi la génération à venir, comme si le Coran n'était pouvait pas effectivement guider l'humanité, pouvait pas aussi être un système de vie pour l'humanité tout entière jusqu'au jour du jugement dernier. Effectivement, vous allez trouver aussi des équivoques qui ont été élevés par certains savants qui disaient que oui, le Coran en tant que tel, ça vient de l'instinct et l'intelligence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en réalité, lorsque le prophète lui-même il ne dit pas que ça vient de mon intelligence, il dit que yuha ilayya, il dit que le Coran on me révèle ce Coran. Et effectivement, lorsque vous regardez aussi Aminul Wahi Jibril, vous allez voir que le Coran lui-même essaie de notifier cela, de nous faire savoir que le Coran vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons fait descendre, c'est-à-dire de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers le ciel ou sur le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en réalité, personne, mes chers frères et sœurs, ne pouvait aussi dire que ça vient de l'intelligence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ce n'est pas une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, et ceux qui se sont affilés effectivement de dire que ce Coran que nous avons entre nos mains aujourd'hui, ce n'est pas un Coran qui peut être actuel. Ça parle de l'histoire, ça parle de tout. Et nous allons dire que le Coran est un livre qui s'adapte qui a servi les gens qui sont passés aujourd'hui, qui s'adapte au présent et à l'actualité. Et effectivement, et cela est important, mes chers frères, que nous puissions aussi voir cela. Et il y a d'autres personnes, Dr. Shariati, il a essayé de dire que le Coran, depuis sa révélation, le temps de l'ère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à nos jours, c'est seulement que après la grande occultation, la valeur du Coran est tombée et le Coran ne peut pas servir cette communauté. Et nous allons essayer de dire que le Coran sert cette communauté et c'est ce qui gère la communauté musulmane, une masse aujourd'hui jusqu'à notre temps. Et c'est tout à fait ceux qui ont essayé de mettre le Coran en mal, qui ont bien compris le Coran et la philosophie de l'enseignement du Coran, ils se sont essayés de se faire une vie meilleure aujourd'hui, une vie pleine de justice et d'équilibre. D'équilibre physique même et spirituel. Donc, en réalité, lorsque nous essayons de parler de ce Saint-Coran, nous n'allons pas finir de faire en un mot. Nous allons essayer de vous résumer pour dire que le Coran n'a pas été falsifié. Le Coran est resté intact depuis l'heure du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Et malheureusement, dans le temps de certains califes, ils ont essayé même de brûler et de faire disparaître la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans Ariya sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, cela a apporté vraiment des préjudices à l'explication du Saint-Coran parce que le Coran lui-même dit que nous t'avons fait descendre la révélation afin que tu puisses l'éclaircir, aux gens, mais l'éclaircissement du Saint-Coran, ce n'est rien d'autre que la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a cela qui est important lorsqu'on veut parler du Coran. Donc, les traités ont essayé de résumer cela. Ce qui est plus important, alors, lorsqu'on parle du Coran, lorsque le Coran est mis en cause, c'est comme si on avait essayé de mettre, effectivement, le fait que le prophète soit le dernier des prophètes, le seul des prophètes, etc. Nous allons essayer de vous dire, mes chers frères, le fait que le prophète soit le dernier des prophètes, cela veut dire que le Coran est le dernier des livres, et le Coran doit rester serviable jusqu'à la fin de ce monde, et c'est ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui, de nos jours aujourd'hui. Mais parlant effectivement de Al-Khatamiyya, je vais parler de le fait que le prophète soit le dernier des prophètes, est lié au sujet que nous avons essayé de parler auparavant. Donc, en réalité, on parle de Khatamiyya, vient du mot Khatam. Ça veut dire que c'est un outil que l'on prend pour rendre fin à un événement. Et aussi, l'événement qui soit, on parle aussi d'un tampon. Le tampon est fait aujourd'hui pour lorsqu'on essaie d'écrire une lettre à la fin de cette lettre pour dire que la lettre est finie. Nous avons l'habitude depuis le temps du prophète et le prophète le faisait de mettre réellement le tampon sur la lettre. Et le tampon, il y a aussi cet ensemble, le fait que ce soit un tampon, parce que le tampon aussi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam figurait réellement sur sa bague. Donc c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on parle de khatam, ça s'applique aujourd'hui au tampon et ça s'applique aujourd'hui au tampon de nos jours et ça s'applique aujourd'hui aussi aux bagues, la bague que l'être humain porte pour la parure. Donc en réalité, lorsque vous essayez de voir cela, le verset coranique qui nous parle réellement de le fait que le prophète soit le dernier des prophètes, et c'est ce verset coranique. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci dans le Saint-Coran, « Ma kaina Muhammadun aba ahadin min rijalikum » ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Il dit, le prophète n'est pas aussi le père de l'un de vous en tant que le disciple, ولكن رسول الله, il est seulement que le messager de Dieu, وخاتم النبي, le dernier des prophètes. Il est important que nous puissions signifier cela. Mais effectivement, lorsque nous essayons de regarder ce verset coranique concernant la signification, nous avons dit quelque part que Khatam veut dire le tampon et de l'autre côté Khatam veut dire une bague. Donc ici, quelle serait réellement l'explication? Il y a certaines personnes qui ont essayé de créer cet équivoque-là, disant que puisque Khatam, ça dit que la bague est faite seulement que pour la parure, Hein? Allah subhanahu wa ta'ala avait essayé de nous dire que le prophète, il est la parure, il est celui-là même qui embellit hein, tous les prophètes. Donc, il est le meilleur des prophètes, pas seulement le dernier. Donc, en réalité, lorsque vous essayez de voir aussi encore d'autres choses concernant ce sujet, et vous allez dire, parce que le Coran aussi dit que concernant le deuxième équivoque, il n'a pas dit le dernier des messagers, mais il a dit le dernier du prophète, donc il y aura forcément des messagers après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque nous essayons de voir, le premier équivoque se porte réellement sur, pour dire que le fait que le prophète soit le dernier, et qui explique le verset coranique que nous avons cité tantôt, dans cette explication, vous pouvez trouver que le Coran essaie de nous dire que Khatam al-Nabiyyin. Ici, réellement, lorsque vous essayez de voir, des premiers temps jusqu'à nos jours, il a été donné comme explication pour Khatam par les Arabes eux-mêmes, étant bien le dernier des prophètes. Puisque Khatam, aujourd'hui, lorsqu'on finit d'écrire une lettre, nous mettons un tampon pour dire que la lettre, pour expliquer la fin de la lettre. Effectivement, celui-là même qui a essayé aussi de créer cet équivoque pour dire que le prophète, il a dit « Khatam al-Nabiyyin », c'est-à-dire le dernier des prophètes, pas le dernier des messagers, donc il pourrait avoir des messagers après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons essayer de dire qu'il n'y a aucune différence, parce que le messager, il ne peut pas être messager sans qu'il soit d'abord prophète. Tout prophète n'est pas messager, mais tout messager est prophète. Donc, c'est tout à fait clair que nous puissions dire qu'il n'y aura pas de prophète ou de messager après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que pour être messager, il faut être d'abord prophète. Donc, dans ce cadre-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas envoyer un autre prophète. Le livre qui nous a été révélé par l'intermédiaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un livre qui nous suffit, c'est un système de vie pour nous. Il suffit de s'accorder avec les enseignements de ce livre. Pour être plus clair, il y a encore un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit encore dans les hadiths, ça existe dans les hadiths sunnites, dans les livres sunnites, comme dans les livres chiites. Il dit que Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya fi. C'est-à-dire, aimerais-tu pas que tu sois, parce que cela c'est vraiment le hadith a été dit pendant les Ghazwat Tabuk, c'est-à-dire que la bataille de Tabuk, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par le danger qui de la part des hypocrites qui menaçaient la République islamique à Médine, le prophète partait à la bataille avec les disciples et les musulmans. Il a demandé à ce que l'imam Ali soit à Médine pour sécuriser Médine de tous les hypocrites. Il est resté. Imam Ali a voulu réellement participer parce que les hypocrites ne faisaient que dire qu'il a essayé de retenir son cousin à Médine pour ne pas qu'il soit tué. Et il nous amène à une bataille pour nous faire assassiner par les ennemis ou tués par les ennemis. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Imam Ali, ce propos le dérangeait. Il allait voir le prophète lui disant que je voulais quand même participer à la bataille. Et le prophète lui dit, « Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya. » Aimerais-tu pas que tu sois, qu'il occupe le même statut que Harun a occupé avec Musa? Hein? Le statut de Harun était qu'il était le khalife du prophète et il était aussi en même temps prophète, mais celui qui succédait tout ce que Moussa alayhi salam avait amené comme étant bien le message et il a essayé de soutenir cela. Et Moussa, il a annahu la nabiya. C'est cette partie-là qui nous intéresse. Il dit sauf qu'il n'y aura pas de prophète après moi parce que Harun était prophète lorsque Moïse ala nabiyina wa alihi wa alayhi salam. Lorsque Moïse est parti à la rencontre de Dieu, effectivement, c'est Harun ala nabiyina wa alihi wa alayhi salam qui est resté comme étant bien un successeur de ce prophète Moïse alayhi salam wa ala nabiyina wa alayhi wa alayhi salam. Donc c'est tout à fait clair, mes chers frères et sœurs, que le prophète essaie de dire que illa annahu la nabiyya ba'di, il n'y aura pas de prophète après moi. Le hadith est tout à fait clair pour dire qu'il n'y aura pas de prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc effectivement, nous ne pouvons pas ignorer aussi, il y a aussi cette la révélation c'est fini, c'est la fin de la révélation, mais il peut avoir aussi des sursauts d'inspiration divine. Lorsque quelqu'un s'adonne à Allah subhanahu wa ta'ala et essaie de purifier son âme, il peut avoir réellement des sources divines pour qu'il puisse les inspirations divines pour lui donner des enseignements, soit dans le rêve ou étant bien debout, pour qu'il puisse voir certaines choses qui sont cachées effectivement. Cela peut se passer, mais pas avec le statut d'un prophète, mais avec le statut d'un être humain tout simple qui fait partie des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui se plie réellement aux volontés de Dieu. Il y a aussi ces secrets qui se trouvent effectivement dans le fait que le prophète soit le dernier des prophètes. Il y a eu effectivement des équivoques sur cette question pour dire que le prophète n'est pas le dernier des prophètes. Non, en réalité, sa mission ne peut pas réellement essayer d'englober toute l'humanité parce que le Coran est limité pour eux, ceux qui ont essayé de créer cette évocote, le Coran est limité dans le sens et dans le fond. Et il y a certaines personnes qui ont essayé d'expliquer cela. À l'intérieur de la religion, il y a certaines personnes, ou aussi à l'extérieur de la religion, il y a aussi certaines personnes qui ont essayé de l'expliquer. Iqbal Lahouri, il a essayé de dire que le Coran aujourd'hui a été révélé au prophète Mohammed, non par cette révélation que nous croyons, par l'intermédiaire des anges Gabriel de la part d'Allah, mais c'est une inspiration personnelle, aussi un instinct qui est à lui, son intelligence qui a pu produire ce Coran. Donc en réalité, nous avons essayé de donner des témoignages pour dire que l'intelligence comme intelligence ne peut pas révéler ce Coran. Et nous avons essayé de dire aussi que celui qui a dit que non, le Coran a été révélé au prophète Mohammed jusqu'à la grande occultation Al-Ghaybatul Kubra, le Coran n'aurait plus peut-être après, depuis ce temps, le Coran n'a plus sa valeur et le Coran ne peut pas aussi suffire l'humanité dans la progression et aussi tout ce qui se présente à l'humanité et d'être vraiment quelque chose qui puisse répondre vraiment aux besoins de l'être humain d'aujourd'hui. Et nous avons dit que le Coran peut essayer de répondre aux besoins des êtres humains et le Coran toujours essaie de répondre aux besoins de l'être humain jusqu'à nos jours. Donc il est important que nous puissions réellement vous faire sanctifier que le Coran, il reste le Coran. Il n'a pas été falsifié, il est le dernier des livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le dernier prophète nous apporte ce Coran, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont le Coran reste effectivement intact et aussi le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reste le message qui puisse répondre jusqu'à nos jours les besoins de l'humanité. Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, et sur ce, je vais vous dire assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.